belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous propose de la partager avec une femme engagée dont le goût pour la justesse, la dynamique, la rigueur rythmique, la couleur vocale, la finesse du travail musical et l'étude de la prosodie a fait d'elle un chef de chœur exigeant et remarqué. Bonjour Claire Garonne.
Bonjour.
Claire, est-ce que vous vous rappelez quelle est la base, quelle est la personne qui a créé cette belle rencontre entre nous deux?
Tout à fait. Il s'agit de Délie Fraisse. En plus de ça, Délie est devenue la présidente de l'ensemble vocal.
Qu'on a accueilli il y a peu de temps dans le conseil d'administration de la radio. Et oui, Délie m'avait envoyé un petit mot en me disant « il faut vraiment que tu relayes les concerts de Claire Garonne, c'est formidable ». Et donc à chaque fois que vous faisiez des événements, on s'appelait et puis un jour on a voulu se rencontrer.
Et on s'est rencontrés.
Et donc pour cette émission, je voudrais d'abord qu'on parle un petit peu de vous, un court portrait de vous. Vous avez suivi des études d'allemand à l'université Paul-Valéry de Montpellier, avant de vous orienter vers une formation de chef de chœur auprès des plus grands maîtres d'Europe. Si j'écorche les noms, n'hésitez pas à me reprendre. Philippe Caillard, Michel Picmal, Bernard Tétu, Eric Erickson, Pierre Cao. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous orienter vers cette formation, Claire ?
Alors, ce qui m'a donné envie, il faut savoir que j'ai toujours chanté depuis l'âge de 7 ans, mais certainement que je fredonnais déjà avant, puisque j'ai eu la chance d'avoir une mère musicienne. Donc j'ai toujours chanté dans des chœurs, chœurs d'enfants, chœurs d'adultes. Et quand je suis arrivée à Montpellier, je suis allée chanter dans les chœurs de l'Enclos Saint-François que dirigeait Jean Bioulès. Et je dois vous dire que j'ai été fascinée par ce musicien qui était Jean Bioulès.
C'est de la famille du peintre.
Pardon.
La famille du peintre,
oui, oui, c'est le père du peintre.
D'accord.
Et Jean Bioulès était pour moi, m'a montré l'humilité qu'on peut avoir devant l'œuvre musicale. Et donc, j'ai fini par avoir envie d'en savoir plus. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers la formation de chef de chœur, alors qu'à l'origine, je n'imaginais pas du tout me mettre de ce côté-là. Et j'ai eu la chance d'avoir une formation top, puisque j'ai eu la chance d'avoir cette formation avec les plus grands chefs.
Je vous interromps, Claire, mais chef de chœur, chorale, c'est la même chose, un chef de chœur, un chœur et une chorale, où il y a des différences?
Il y a forcément une différence. Parce que quand on est simple choriste, on ne se met pas forcément du côté de celui qui dirige. Mais c'est vrai que je n'ai pas peur de dire que je dois tout à Jean Bioulès. Parce que je me suis dit, en le voyant, mais les maîtres de chapelle autrefois, mais c'était ça, ils savaient tout faire. Ils savaient harmoniser un chant, ils savaient prévoir les musiques du dimanche aux offices, ils dirigeaient, ils faisaient tout.
C'est intriguant parce que moi je connais bien la famille Bioulès. Alors Vincent, évidemment, tout le monde le reconnaît. On connaît David, qui est son fils et qui est artiste peintre aussi. Oui. On connaît son frère qui dirigeait le théâtre du
Hangar. Mais tout
Hangar,
à fait, Jacques.
Jacques. Mais alors Jean, c'est la première fois que j'en entends parler.
Ah ben alors là, c'est marrant.
Incroyable.
Oui, parce que quand même...
Il y en a un qui va se faire disputer, c'est David, s'il entend l'émission, parce que c'est un ami. Voilà, oui. Donc je lui demanderai de me parler de son grand-père. C'est une formation qui rentre dans des cours de l'État. Enfin, c'est payant. Comment ça se passe pour devenir chef de chœur? Parce que vous en avez fait votre métier, Claire, après.
Vous payez pour faire des stages, ça oui. Après, à l'époque où moi j'ai démarré, les chefs de chœur n'étaient absolument pas rémunérés. C'était donc vraiment un acte gratuit par conviction, par enthousiasme, envie de rassembler des gens pour « aller, on va essayer cette partition, qu'en dites-vous ?»
Plus que pour un chef d'orchestre, par exemple ?
Ah, je pense, oui.
C'est intéressant cette approche parce que c'est un métier dont on ne parle pas beaucoup.
Oui, parce que c'est le métier le plus récent. Le CA de chant choral pour enseigner le chant choral dans nos conservatoires est le plus récent. Donc, effectivement, au début, les chefs de chœur n'étaient pas payés, mais maintenant, ils le sont. Bon, moi, personnellement, je n'accepte pas ces conditions parce que j'ai été formée autrement.
Le fait d'être bénévole,
par contre, je suis rémunérée quand je fais un concert.
Voilà. Donc, chef de chœur agréé par le ministère de la Culture, vous avez aussi été professeur titulaire de chant choral au Conservatoire national de région de Montpellier, chef de chœur à l'Opéra Junior à sa création, et vous y avez assuré la formation vocale des jeunes choristes et des jeunes solistes jusqu'en 2001. Rapidement, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que justement le métier de chef de chœur. Quand vous choisissez un morceau, qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous le choisissez?
Il y a les deux aspects, parce que soit c'est, par exemple, moi, avec mon ensemble vocal, je choisis effectivement le programme. Pour Opéra Junior, ce n'est pas moi qui choisis le programme. Donc, je vais m'approprier le programme qu'on me demande de développer. Et là, c'est un métier passionnant. Je dois dire que ce que j'ai découvert avec Vladimir Kojoukarov à la tête d'Opéra Junior, c'est amener des jeunes qui n'ont aucun bagage musical à la base, mais qui ont une envie folle d'être sur la scène. Et donc, je leur apporte les outils pour pouvoir y arriver. Et c'est complètement fascinant, je dois vous l'avouer.
Et ça se décortique
Oui, complètement. Ça, ouais. Complètement, ça se décortique. Alors, d'une part, vous avez le rythme, vous avez le texte que la musique va suivre. Alors, est-ce que le rythme va suivre les élans? Il y a une prosodie même dans un texte. Vous n'allez pas lire n'importe comment les textes de Ronsard et puis ceux de Charles Péguy.
Il peut y avoir comme ça deux versions totalement différentes par deux maîtres, deux chefs de chœur différents.
Ah oui, complètement.
Ouais, quand j'étais enfant, mon père écoutait la tribune des critiques de disques le matin sur France Inter.
Aussi.
Alors des fois, il y avait 12 fois le même morceau, enfin j'exagère, 4-5 fois. Et alors, il s'engueulait, excusez-moi du mot.
Mais c'était Antoine Goléa.
Voilà, c'est ça.
Et
alors, il s'engueulait comme quand le soir, il y avait le dimanche soir, le truc des films où il y avait Charles Sol qui s'engueulait avec Jean-Louis Borry. Voilà, c'est des trucs qui nous ramènent un peu loin, Claire. Mais voilà, pour le même morceau de musique, et des fois, il s'engueulait pour un détail à l'oreille vierge comme la mienne, je ne la voyais pas, le détail. Oui. Mais comme ça, deux chefs de chœur peuvent donner une version vraiment différente du même morceau.
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs passionnant, parce que vous vous rendez compte que finalement, vous, quand vous allez interpréter telle pièce, vous le faites parce que c'est votre conviction, mais il y a la place également pour une autre façon de faire.
Et par exemple, un choriste différent des autres peut vous amener à changer aussi, vous, votre
façon de faire. Tout à fait. Justement, c'est ce qui m'intéresse, mais on en parlera quand on va parler de l'ensemble vocal.
Dernière question, quand je parle de vous, donc vous donnez par ailleurs un enseignement sur la voix en musicothérapie à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, et vous avez assuré également un enseignement de direction des chœurs. En tant que chef invité, vous participez à des festivals, à des académies d'été, mais c'était surtout sur l'enseignement, sur la transmission.
Oui.
Est-ce que c'est... j'ai eu la chance, il n'y a pas longtemps, de rencontrer quelqu'un, enfin, j'ai un ami qui vous a connu, plus jeune, et je vous en ai parlé en off, je ne vais pas le citer, et qui se rappelait de votre qualité d'enseignement. Vous aimez enseigner, vous aimez transmettre, justement?
Absolument, parce que je ne pense pas du tout que je suis dans la transmission, mais c'est vrai que, par exemple, pour la musicothérapie, il me semble que c'est la moindre des choses. Pour un musicothérapeute qui va essayer de rétablir une communication qui a tout à coup à chuter, à buter contre quelque chose, qu'ils connaissent toutes les possibilités de la voix. Il n'y a pas que la voix parlée, il y a la voix chuchotée, il y a la voix chantée, il y a la voix hurlée, à travers les œuvres musicales. Et donc on a décortiqué certaines œuvres musicales pour qu'ils s'approprient eux-mêmes cette façon de traiter leur voix.
On parle de l'interprétation. Est-ce que vous avez vu des gens s'épanouir? Par exemple, on dit toujours qu'il y a des gens qui sont un peu introvertis, qui, quand ils font du théâtre, c'est une révélation et le fait d'interpréter les transforme. Est-ce que ça, on pourrait le dire aussi de quelqu'un qui interprète un chant choral?
Tout à fait. Hein. Vous savez, les choristes, ils arrivent, ils ont une journée de travail derrière eux, ils arrivent, moi je le vois, ils sont fatigués, donc on commence par se détendre. À la fin, ils sortent, ils sont radieux. Donc vraiment, il y a quelque chose qui...
C'est vrai que souvent, quand je rencontre des amies qui s'engagent dans une chorale, elles ont ça, quoi. Ça leur devient indispensable et presque une question de santé, quoi. Ça les entretient. J'aimerais aussi qu'on parle de votre ensemble vocal, donc, parce que plusieurs fois, quand je vous ai eu au téléphone, c'était juste pour parler de votre ensemble vocal et de ce que vous donniez comme représentation. Donc, sur votre page Facebook, qui est très bien... sur votre site, qui est très bien fait, vous en parlez comme d'un groupe souple, motivé d'une vingtaine de choristes amateurs et qui essaye de raconter ensemble des grands moments de l'écriture vocale, profane comme sacrée du Moyen-Âge à nos jours. Qui mieux que vous peut nous en parler de ce groupe Clairegarronne, de ce que vous avez voulu créer et ce que vous voulez apporter avec ce groupe?
Alors il faut savoir qu'à la base, je n'ai pas créé directement ce groupe. À la base, c'est lorsque Jean Biulès est décédé. Il n'avait absolument pas pensé à lui, alors la transmission, il n'y pensait pas du tout. Donc on s'est retrouvés orphelins. On a été plusieurs personnes à qui, enfin plusieurs choristes, puisque j'étais choriste à ce moment-là, à qui on a proposé de prendre la succession. Et lorsqu'on m'a posé la question, vous savez, à cette époque-là, on était une centaine de choristes. Moi, je ne me voyais absolument pas à la tête d'une centaine de choristes. Donc, j'ai refusé. Et à la fin de l'année, 4 choristes sont venus me voir et m'ont dit, tu sais, Claire, lorsque tu as fait travailler la Veverum de Mozart, on a beaucoup apprécié ta façon de le faire. Tu n'as pas envie de faire un groupe dans lequel on pourrait chanter? Moi, j'ai dit, écoutez, attendez, pour avoir un groupe, il faut d'abord savoir si je suis capable d'être chef de chœur. C'est comme ça que j'ai entrepris toute ma formation et j'ai commencé avec Philippe Caillard, qui est encore vivant de nos jours et à qui je rends vraiment un hommage avec beaucoup d'émotion, parce que lui aussi, j'ai appris chez lui l'humilité devant l'œuvre. Je l'ai rencontré, il avait 70 ans à cette époque. Il me dit, Claire, tu sais pas, ça y est, je vais oser faire le Requiem de Brahms. Je me suis dit, mais pétard, un homme, un musicien de cette envergure qui attend d'avoir le signal. Mais c'est vrai, moi je me souviens avoir eu le signal pour la Passion selon Saint-Jean en 2002. Je me suis réveillée un matin en me disant, ça y est, tu peux te lancer dans la Saint-Jean, tu la connais très bien.
Et ce groupe, donc ces 4 personnes sont venues vous voir. Voilà. Et puis après, vous avez décidé...
Après mon stage, j'ai vu que j'étais passionnée, que j'avais fait un stage où j'étais apte à essayer. Donc je leur ai dit, bah, écoutez, on se lance et puis on verra bien. Donc voilà comment on a commencé, mais on a été nombreux, hein. On a été jusqu'à une quarantaine de choristes. Et puis c'est peu à peu, j'ai eu envie d'affiner, d'aller plus loin dans l'interprétation. Et c'est vrai qu'à 40 personnes, ben c'est moins faisable qu'avec une vingtaine de personnes. Donc aujourd'hui, on est seulement une petite quinzaine, même voire on va dire une petite douzaine. Hein. On y arrive difficilement. Alors, pourquoi on arrive difficilement à être plus de 12 choristes? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à Montpellier, il fait bon chanter.
Oui, il y a beaucoup de chorales.
Il y a plus de 50 chœurs dans la bonne ville de Montpellier. Vous avez 2 classes excellentes de direction de chœur au conservatoire qui forment de très bons chefs. Actuellement, il y en a un qui est en vogue, là, Stefano Bernabovi, qui dirige l'ensemble Conspectus, qu'il le dirige d'ailleurs, qui le co-dirige avec Laure Capri. Et forcément, son cœur, c'est que des jeunes. Alors les jeunes, ils sont déjà au conservatoire, ils sont dans le chœur Conspectus, et nous, Tintin.
On va en parler là, parce que je voulais venir amener un peu ce sujet un tout petit peu plus tard dans l'émission, mais c'est parfait, il y vient à propos. Donc, comme vous en parlez, on peut faire un rappel. Donc, on a fait une annonce il y a une quinzaine de... Non, un petit mois.
Un petit mois.
Pour venir chanter dans l'ensemble vocal Clair-Garonne, il faut être motivé, ça j'ai bien compris, mais je pense que vous devez partager votre motivation. Donc, à chaque fois que je vous vois, Claire, il y a une boule d'énergie. Hein. Aimer partager sa joie de chanter. On l'a compris, vous en parlez, c'est la première chose dont vous parlez, même quand vous parlez des chœurs. Avoir l'exigence musicale du chef dans le but de devenir autonome au sein du chœur. Vouloir découvrir le chant de formation en formation très variée, octoire, secteur, quatuor. S'engager, et ça c'est vraiment important, parce que la dilettante, c'est pas terrible.
Oui.
S'engager à être présent au sein du chœur dès la prochaine rentrée. Donc dès maintenant, il y a encore un peu de place, hein, si j'ai bien compris.
Oui.
Tous les lundis de 20h15 à 22h45, un samedi par mois de 14h30 à 18h30.
Un dimanche
ou
par mois.
Ou un dimanche. Ah, c'est plus
oui,
samedi.
Finalement, c'est un
d'accord.
Dimanche. Oui.
Alors, un dimanche par mois, de 10h à 17h30, et bien sûr, au concert. Voilà, donc il y a une première audition avec vous, un entretien avec vous et une deuxième audition avec après un mois de travail avec l'ensemble.
Oui, c'est important parce que quand vous arrivez, que vous êtes choriste, vous avez une certaine demande. Alors il faut que votre demande, elle colle avec ce que le chef de chœur propose. Et le chef de chœur, lui aussi, est en attente de voir si le choriste...
rentre
bien
dans le groupe, parce que en été 20 personnes, enfin là il y en a une quinzaine aujourd'hui, 20 c'est vraiment l'idéal, Claire.
Ah oui, ce serait formidable. Ouais. 18, ouais. Entre 18 et 20, moi j'aimerais.
Bah, tant qu'on n'aura pas ces 20, on passera régulièrement l'annonce avec Richard matinale.
Oh, c'est gentil, oui, bah, ça je veux
non,
bien,
non,
je veux bien. Parce que vous voyez actuellement, ils sont 7 fidèles, et ils sont formidables. Et quand on les entend chanter, on est complètement épaté parce que ça sonne, ça tourne. On échange aussi les façons de voir, d'interpréter. Ils ont des idées. Il n'y a pas que le chef de chœur qui a des idées. Vous pensez bien que les choristes, ils écoutent de la musique, ils vont au concert, ils connaissent d'autres amis qui sont choristes dans d'autres chœurs. Donc, il y a tout ce brassage ce foisonnement qui est très enrichissant.
Donc venez rencontrer Clair-Garonne, venez rencontrer l'enthousiasme de Clair-Garonne. Tiens, je vois la petite tête de Rija qui se pointe son nez dans le... Donc Rija, Claire, elle a encore besoin que tu annonces les recrutements. Hein, donc tu en parles régulièrement. On va marquer une première pause musicale que vous nous avez suggérée. Et c'est... Alors peut-être ça serait mieux que ce soit vous qui le disiez, le titre.
Alors, il s'agit du motet de Jean-Sébastien Bach, Singet dem Herrn ein neues Lied, chantez au Seigneur un nouveau chant.
On va vous expliquer pourquoi tout de suite après.
Thank you.
Alors, je viens de vous dire, on va parler répertoire, mais on va parler d'autre chose. Vous êtes toujours sur Radio FM+, dans la belle rencontre que je partage avec Claire Garonne, chef de chœur de l'ensemble vocal Claire Garonne. Claire, je voulais parler du répertoire, mais ensuite on parlera un petit peu plus loin, puisque si vous avez choisi ce morceau.
Et oui,
il y a une raison.
Il y a une raison.
Donc on va en parler maintenant de la raison.
D'accord. Alors la raison, c'est tout simplement parce que l'association donc pour un nouvel orgue au temple de la rue de Maglone fait venir le grand musicologue Gilles Cantagrel pour nous parler de Jean-Sébastien Bach et de l'orgue. Alors Gilles Cantagrel il a tellement de titres que je vais en oublier, il me pardonnera. C'est d'abord un excellent musicien, c'est un pédagogue, c'est un conférencier, il a été directeur de Radio France pendant je ne sais plus combien d'années, il a facilité le travail avec le centre musical de baroque de Versailles, que dirigeait à l'époque Vincent Berthier de Lioncourt, qui est ici à Montpellier, avec qui nous partageons aussi beaucoup de répertoires et de musique, et même musique vivante, puisqu'il tient très souvent la partie positive pour l'ensemble vocal. Gilles Cantagrel est également président de la fondation de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach à Leipzig, en Allemagne. C'est vous dire qu'il a écrit 30 livres sur Jean-Sébastien Bach et il vient d'en terminer un 31e qui vient de paraître, qui s'appelle Le Monde de Bach, sous forme d'un abécédaire. Et donc, il nous semblait, pour nous qui faisons partie de cette association pour l'orgue, il nous semblait évident d'essayer de le faire venir. Et si je vous dis qu'il a accepté spontanément, c'est extraordinaire. C'est un homme de 85 ans qui, encore aujourd'hui, va venir nous enthousiasmer, nous emballer, parce que pourquoi est-ce qu'il a écrit sur Bach ? Et ça, c'est étonnant. C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il circulait beaucoup d'idées complètement fausses sur Jean-Sébastien Bach. Il s'est dit, je vais rétablir tout ça. Et pour quelqu'un qui tout ça, ça fait je sais pas combien d'années.
Pour quelqu'un qui, comme moi, ne le connaît pas, par exemple, Bach spécialement, j'en connais les grandes lignes, mais vous parlez de sa pédagogie, c'est quelqu'un qui va m'en parler d'une façon simple ou d'une façon très érudite, Claire ?
Ah, je pense qu'il va, être à la portée de tout le monde.
De tous.
Il va être à la portée de tout le monde, parce que je pense pas que ce soit quelqu'un, malgré tous ses titres, qui va arriver en disant « Bon, c'est moi, Gilles Cantagrel, le grand spécialiste de Bach, vous allez voir. » Non, pas du tout. Je pense que ce qui l'intéresse, c'est justement, c'est de poursuivre ce qu'il fait au cours de ses ouvrages. Il a écrit un livre qui est merveilleux, qui s'appelle « La rencontre de Lübeck ». La rencontre de Lübeck, qu'est-ce que c'est ? Jean-Sébastien Bach avait entendu parler de Buxtehude, qui a vécu bien avant lui. Et donc, il a fait le voyage jusqu'à Hambourg, à pied, à cheval, par les conditions qu'il connaissait à l'époque, c'est-à-dire pas de tram, pas d'avion. Oui. Voilà. Donc, on méritait déjà son voyage. Et les archives, malheureusement, les archives de la ville de Hambourg avaient brûlé. Donc, en fait, c'est Gilles Cantagrel qui a complètement imaginé cette rencontre. C'est un petit livre fabuleux que je vous recommande à tous.
On le mettra en lien sur le podcast de votre émission. Vous en parlez comme d'un musicien, c'est un compositeur ? Ou c'est un musicien ?
Non, je ne pense pas qu'il compose. Non, je
pense pas. C'est un organiste aussi ? C'est un pianiste-organiste ?
Oui. Ah, il connaît tout de l'orgue.
Avant de parler longuement, parce qu'on s'est gardé du temps pour parler justement des répertoires que vous aimez, Je ne sais plus si c'est avec vous, je ne sais plus avec qui je parlais il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes chefs de chœur ? Par exemple, aujourd'hui, je pensais, parce que Emmanuel Haïm reprend une série de concerts en ce moment, et quand on voit, quand on la voit, on ne l'oublie pas, quoi, déjà avec sa grande chevelure rousse et son allant, et c'est une des rares chefs d'orchestre femmes. Est-ce que chef de chœur, c'est plutôt féminin ou masculin, Claire ?
Alors, chef de chœur, au début, ben, ça a été plutôt masculin. Il y a eu beaucoup d'hommes. Et puis, peu à peu, il y avait des femmes. Et voilà, actuellement, il y a énormément de femmes. On ne peut pas dire...
Ce sont dans les chœurs, il y a aussi beaucoup de femmes.
Eh oui.
Mais comme dans les associations littéraires, comme dans beaucoup de bénévolat, on est là. Alors, peut-être qu'on vit un peu plus vieux que les hommes, mais en tout cas, on s'investit beaucoup dans les associations. Claire, je voulais qu'on garde un grand moment. On a 10 minutes pour en parler, vraiment, sur le répertoire. Parce que moi, je suis une dingue de musique baroque. Oui. On parlait d'Emmanuel Haïm, bien sûr. Je m'en rappelle même... pré-baroque, je me rappelle avoir écouté à Saint-Denis, à Paris, un concert, je ne vais plus me rappeler, Magloire, qui était un spécialiste de la musique ancienne. Évidemment, Les Arts Florissants de William Christie, j'adore ça. Et puis, quand on a parlé de votre dernier concert, j'étais étonnée parce qu'il y avait Arvo Pärt, il y avait
des compositeurs d'aujourd'hui.
Et je me suis dit, mince, pour moi, Claire Garonne, c'était que musique baroque.
Vous avez raison, parce que nous avons été taxés d'interprétation de musique baroque. Ça nous a collé à la peau. Ça nous a peut-être fait du tort, parce que ça peut-être empêché des choristes de venir voir, alors que nous avons eu déjà des programmes avec Debussy, Ravel, Poulenc, le romantisme que je chéris particulièrement avec Brahms, Schubert, Schumann, et le répertoire aujourd'hui. Parce que il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Au moment de ce qu'on a appelé la musique contemporaine, donc au début du XXe siècle, on a entendu des œuvres qui demandaient de nous investir d'une façon... en tout cas, moi, personnellement, je n'y arrivais pas. Et je me disais, pétard, mais où est passée la mélodie ?
Selon ce contemporaine, moi, je mettrais ça avec Boulez, par exemple.
Eh bien oui, donc où est passée la mélodie ? Alors, ils ont créé des choses passionnantes et puis sont arrivés tout à coup des musiciens qui ont intégré le sens de la mélodie à l'intérieur d'un noyau plus contemporain. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de compositeurs. Alors justement, cette année, nous avons axé notre projet autour de 3 compositeurs, dont un qui est d'ici, qui est de Béziers. Il s'agit de Roger Calmel. Donc Roger Calmel a énormément écrit pour la voix, pour les chœurs, pour les chœurs d'enfants, pour les chœurs mixtes. Donc ça me paraissait intéressant de nous replonger dans son répertoire. Nous avons été aussi chercher des œuvres de Reynaldo Hahn. Alors Reynaldo Hahn est très connu de tous les chanteurs. Parce qu'il a
Reynaldo Hahn, c'est presque... c'est un peu beaucoup pour moi. Je sais pas, je connais mal.
Je pense que vous le connaissez mal. Alors, les chanteurs le connaissent bien, mais les choristes, les chœurs ne le connaissent pas. Ah. Il a écrit des chansons... j'ai pas les titres là, dans la tête. Des chansons... très agréable à chanter.
Un petit peu d'histoire, Claire. Le chant choral.
Oui.
Les premières traces du chant choral, je ne sais pas...
Les premières traces, c'est pas compliqué, c'est le scoutisme avec César Geoffrey. C'est César Geoffrey à Lyon, avec ses scouts, il les a fait chanter Et il a créé le mouvement À cœur joie.
D'accord.
Et c'est le mouvement À cœur joie qui a essaimé dans toute la France.
Mais ça veut dire qu'au Moyen-Âge, à la Renaissance, il n'y avait pas de chant choral ?
Mais bien sûr que
si. Si, c'était les chants d'église.
Mais voilà.
Voilà.
Non, surtout les moines.
Les chants religieux. Oui, voilà. Les chants religieux,
donc,
bien sûr.
Si, si. Vous
comme d'ailleurs la peinture à cette époque-là, c'était aussi une peinture religieuse.
Et de toute façon, si vous entrez dans l'abbaye du Toronnet, les murs chantent.
Ouais.
C'est ce que je dis toujours. Moi,
qu'est-ce que vous
arrive.
Pensez des Carmina Burana qu'ont tellement fait pour les chants chorales qui sont souvent remis en cause?
C'est une œuvre qui a beaucoup de succès.
Voilà.
Parce que ce sont des chants populaires, anciens, du texte qui est ancien aussi. Alors ça pose de temps en temps un petit problème. Mais on les a vite en mémoire.
Mmh.
Donc.
Mais je crois que c'est aussi la réorchestration de Karl Orff, parce que si on écoute, il y a aussi les Carmina Burana, pas par Karl Orff.
Oui, bien
et
sûr.
Et c'est beaucoup plus sobre dans le chant.
Tout à fait, tout à fait. Donc, et puis le troisième compositeur que nous avons mis à notre programme, c'est Jehan Alain. Alors, qui est Jehan Alain ? C'est le frère de Marie-Claire Alain, organiste. Et il a vécu très peu de temps. Malheureusement,
ouais.
Il est mort pendant la guerre. Et donc, alors ça, je mets au défi, j'aimerais connaître les chœurs qui ont déjà chanté et présenté une œuvre de Jehan Alain.
Alors, comment vous êtes passé l'année dernière du baroque à trois, c'est la première partie du XXe siècle,
c'était
Claire.
Monteverdi, hein, la
oui,
dernière fois.
Voilà.
Monteverdi,
voilà.
Tous les madrigaux.
Oui.
Madrigalistes.
Alors ça, moi, je...
Vous adorez.
Ah, j'adore
ben
vraiment.
Oui.
J'adore.
Mais moi aussi.
J'adore ça et j'adore, alors, peut-être avant ça, c'est que j'aime Fauré, Debussy, Ravel,
oui.
Voilà, tous les grands du...
Mais bien sûr.
Voilà. Il n'y a pas de chant d'ailleurs là-dessus. Si, Debussy,
si.
On peut
alors,
chanter.
Si, parce que Debussy et Ravel, c'est marrant, hein, ils ont écrit trois chansons. Trois chansons de Charles d'Orléans pour Ravel et Debussy, lui, c'est sur d'autres textes. Des chants qui ne sont pas faciles, mais qui sont très intéressants.
Il y a un truc, on en a parlé quand on s'est vu il y a un mois, moi, je crois que c'est Ravel, hein, c'est les trois beaux oiseaux du paradis. C'est quelque chose qui...
Aux oiseaux du paradis, mon ami, il est à la guerre.
C'est quand même magnifique. Il n'y a pas longtemps, très très connu, mais la parade pour une infante défunte, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas écouté, c'est quand même une merveille. Ravel, on a un petit peu oublié,
oui.
On l'a un peu arrêté au Boléro, qui est une merveille.
Ah oui,
musicale,
oui, mais c'est vrai que le Boléro
tellement...
a cassé.
Voilà.
Mais... J'allais dire, vous voyez, moi, je rapproche ça aussi avec les Carmina Burana. De temps en temps, j'ouvre, j'écoute forcément la radio, j'écoute les concerts, je vais au concert, les magazines et tout ça. Je me dis, non, mais arrêtez. Tout le monde fait un requiem de Mozart, un requiem de Fauré, les Carmina de Karl Orff. Mais écoutez, il y a tellement de chefs-d'œuvre.
Reynaldo Hahn, Jehan Alain et Roger Calmet, c'est quelle époque précisément ?
Ah, c'est 20e.
C'est ça, hein, c'est première partie du 20e siècle.
Oui, oui. Ouais, ouais. 20e.
Comment alors, vous les avez découverts ? Parce qu'il faut de la curiosité ?
Non, dans ma formation.
Ouais.
Dans la formation que j'ai reçue, Jehan Alain en particulier. Ouais. Jehan Alain a écrit un septuor pour instruments à vent, guitare et un quatuor vocal, qui est de toute beauté. Donc ça aussi, c'est rarement donné, et c'est trop dommage. Il faut vraiment le connaître. Oui, je dois beaucoup à ma formation. Et puis, nous avons découvert peu à peu, je pense que c'est Erik Eriksson, le chef de chœur de Suède, qui nous a orientés vers tous ces compositeurs nordiques que nous ne connaissions absolument pas.
Arvo Pärt.
Arvo Pärt, vous avez Ola Gielo, Mishkinis, tout plein. Et c'est... Ah là là, moi je les adore.
Mais je connais peu, mon père était vraiment très amateur de musique, et quand il est mort, il y avait énormément de disques. Et je sais que chez Naxos, par exemple, il y a beaucoup de ces compositeurs-là. Oui. Mais je n'ai pas tout réécouté encore, parce que je crois qu'il a dû me laisser 4000 CD. Donc,
ah ben ça
c'est
va.
De fou. Voilà.
Et
j'ai
à
de quoi.
Toulouse, vous avez Patrick Burguin. Donc nous avons des chefs aussi, des chefs français qui composent. C'est très intéressant.
Claire, c'est peut-être un peu difficile comme ça, sans l'avoir préparé, cette question, mais quelle est pour vous, dans toute votre carrière, la plus grande émotion de chant?
Oh là là.
C'est difficile, hein?
Non, c'est pas difficile. C'est la Passion sur Saint-Jean. J'avais 13 ans. J'étais au Maroc, puisque je suis née là-bas, j'ai vécu 19 ans. Et ma mère chantait dans un chœur mixte. Elle dirigeait à cette époque la chorale d'enfants que nous étions, la chorale de jeunes. C'était à l'âge où les garçons muets. Et donc, le chef d'orchestre a proposé à ma mère, mais pourquoi apprenez donc le chœur d'entrée, le chœur final. Non, c'était pas ça, c'était les chorales. Il a dit, mais vous devriez leur apprendre les chorales, elles viendront chanter les chorales. Et nous assistions au week-end de formation et on entendait bien sûr ce qu'ils chantaient. Alors je peux vous dire qu'au bout d'un week-end, on connaissait parfaitement le chœur d'entrée, le chœur final. Donc on a chanté tout ça. Et vous pensez bien, à 13 ans, avoir ce type d'émotion, c'est pour ça que je vous ai dit, après, plus tard, en 2002, je me suis dit, ça y est, tu peux te lancer dans la Saint-Jean, parce que je la connais par cœur. Je la connais par cœur, je peux chanter tous les airs, je peux chanter le récitant.
C'est, ouais. Mais c'est la plus forte émotion. Bah, je vais le réécouter alors.
C'est une des très grandes émotions. J'aime énormément aussi la sensation que me procure le Requiem de Forêt. Avec son Pie Jésus qui est presque diaphane.
Moi j'aime beaucoup Forêt, ouais. C'est vrai que c'est un... Mais je suis très sensible à la culture, à l'architecture, à la peinture du 19e siècle, à la poésie. Mmh. Voilà, c'est un univers qui me... qui est presque fin de... Oui, c'est fin de siècle de toute façon, mais il n'y a pas encore le redémarrage que va donner l'après-guerre, la force. C'est un univers un peu tendre, un peu mou presque, mais que j'aime beaucoup, et qu'on retrouve dans la musique de Forêt, qui est pour moi un mélodiste, enfin il n'y a pas que pour moi, pour tout le monde, c'est un des plus grands mélodistes, voilà. Comme je suis très sensible à ça. On revient sur cette programmation de cette année, donc Roger Calmels, Reynaldo Hahn, Jean Alain. Quand vous choisissez comme ça trois musiciens, la soirée dure combien de temps?
Alors, il n'y aura pas que ces trois musiciens, ouais. Ça ne peut pas faire le temps. Non, un concert, en général, on prévoit 50 minutes de musique, parce qu'après, il y a un temps de parole. On sait que le public, au-delà d'une heure d'écoute... ça devient plus complexe pour certaines personnes.
Donc, vous nous rappelez la date d'un prochain concert? Il n'y en a pas? Rien pour l'instant?
C'est fin juin.
Fin juin.
on vous précisera.
On donnera
on
l'info.
On vous précisera, oui.
Claire, bientôt l'heure de se quitter. Même dans une minute, on va se quitter. Juste rappeler quand même que vous pouvez, auditeurs, devenir donateurs et encourager l'ensemble du travail de Claire et puis les aider à monter des programmes originaux en collaboration avec des musiciens professionnels et contribuer à tout ça en allant sur votre site, Claire Garonne, Ensemble Vocal Claire Garonne. On trouve tous les renseignements.
Ah, eh ben merci beaucoup.
Ça a été vite, hein.
Nathalie, c'était vraiment un immense plaisir.
On se verra régulièrement.
Oh oui.
Merci Claire Garonne pour cette belle rencontre et puis à très bientôt. On se voit de toute façon le 19. On se retrouve tous pour écouter Gilles Cantagrel au Temple de Maguelone pour nous parler de Jean-Sébastien Bach.
Merci
beaucoup. À bientôt pour une autre belle rencontre.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie. Thank you.